On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93. Ça me parle. FM 93, c'est FM 93, ce midi. FM 93, ça me parle.
Ici Paul-Raphaël Charon. Fin de la saga de l'église Saint-Cœur de Marie, la démolition débute aujourd'hui. La musique rock est de retour à l'Agora de Québec et le financement du tramway serait finalement bouclé.
FM 93, ce midi.
Bonjour à tous, bienvenue à FM 93 le midi. C'est-tu ça le nom de l'émission?
Oui, FM, non, c'est ce midi.
Ce midi.
Parce que si tu dis FM 93 le midi, c'est pas spécifique. T'sais, on est dans le moment présent, carpe diem, man. Ce midi, FM 93 ce midi.
11h01, 26 juin 2019. Jean-Simon Buc est avec moi, je m'appelle Paul-Raphaël Charon, on s'installe avec vous.
Yes.
Pour cette heure du dîner, on est là jusqu'à 14h, à la suite de quoi l'équipe d'Éric Duhaime s'empare des ondes. Gros plan de match aujourd'hui, on vous l'a dit quand même, il y a cette histoire de l'église 5 heures de matin. Qui est démoli aujourd'hui. Oui. Les gens qui sont pas des fervents amateurs de gros bruits forts seront pas très contents d'apprendre que le rock revient à l'Agora de Québec. Et enfin, des nouvelles sur le financement du tramway. Toutes des histoires sur lesquelles on va revenir. Mais avant, Jean-Simon, as-tu eu la chance de manger dans un camion de cuisine de rue cet été?
Pas à Québec.
Ben, je dis la chance, oui. c'est j'ai choisi le mot, là. Il faut être chanceux pour manger dans un camion de cuisine de rue à Québec cette année.
Les food trucks, Paul-Raphaël, à Québec, c'est un peu comme les Pokémon dans Pokémon Go. C'est-à-dire que t'es mieux d'avoir des indications pour les trouver. Parce que,
ouais. OK, j'aime bien l'image.
Vrai. Non, mais tu sais qu'ils ont carrément fait une application. Je pense qu'il y a 2 ans, il y a une compagnie qui a fait une application pour géolocaliser les food trucks. Parce que c'était tellement pas intuitif. Ils ont tellement envoyé à UPIA pendant le projet pilote dans les 2 dernières années que les gens avaient besoin d'une application pour les géolocaliser. Fait que, moi, quand c'est rendu qu'il faut que je check mon... il est où mon roteux, là? Je m'en vais chez Valentine. C'est plate,
ouais,
mais c'est
non,
ça.
Mais on a la même philosophie là-dessus. Moi, j'étais un peu déçu parce que... puis là, vous allez pouvoir penser que peut-être que je vis dans un monde de Kalinours puis que j'ai la tête dans les nuages, je suis un idéaliste. Mais moi, quand ils ont parlé de camions de cuisine de rue, je me disais, waouh, c'est trippant, tu sais, il va y avoir des camions de cuisine de rue à Québec. Là, on va se promener. Par exemple, l'autre jour, je sortais du traversier avec ma blonde puis le bus passait comme 20 minutes plus tard puis... se rendre chez nous à pied, ça prend à peu près 40 minutes. Fait qu'on s'est dit, on va marcher, puis on marchait. Donc, t'es rendu dans le coin de l'espace 400e ou j'allais dire le marché du Vieux-Port. L'ancien marché du Vieux-Port. Tu sais, c'était un coin magnifique. Puis là, on se disait, on vient de déménager, on a rien dans le frigo, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais donc aimé ça tomber sur un camion de cuisine de rue dans un secteur touristique où il y a plein de gens à pied, plein de gens à vélo. Mais c'était à peu près impossible parce qu'il y a que... très peu de lieux là, tu sais, qui ont été déterminés par les réglementations de la ville. Mais j'étais convaincu que l'aboutissement de tout ça, ça allait être... il va y avoir plein de camions de cuisine de rue à Québec, c'est dans le fun. Or, c'est vraiment pas ça qui se produit. Même que la saison débutait officiellement le 15 mai.
OK, donc ça veut dire un mois, là?
Ouais, à partir de... il y a plus d'un mois, là, les opérateurs de camions de cuisine de rue pouvaient commencer à s'installer là dans les endroits qui ont été déterminés par la ville. Or, il n'y a aucun des 3 opérateurs de... 3? Pas 15, là.
Tu sais, quand je te parle de Pokémon Go, là...
il n'y en a aucun des 3 qui a reçu son permis encore.
Fait qu'ils peuvent pas.
On est le 26 juin, la saison commençait le 15 mai, et il n'y en a aucun des 3 qui a reçu. Là, on dit qu'ils devraient recevoir prochainement leur autorisation. Personne, pour l'instant, peut avoir l'autorisation sur le domaine public pour opérer son camion. Et la porte-parole de la Ville de Québec a indiqué que de petits détails restaient à finaliser. Or, j'ai peine à m'expliquer c'est quoi les détails. J'aurais aimé ça qu'on me le détaille, parce que c'est à quel point c'est compliqué, là, tu sais, de donner un permis. Tu veux t'assurer que peut-être sur le plan de la salubrité, tout est correct, mais il y a 3 candidats, là. Tu sais, il n'y a pas 82 applicants. Là, tu te dis, il faut qu'on choisisse le meilleur, ouais, ou il faut qu'on s'assure que tout ça est en... il y en a 3! Il y en a 3!
Écoute, puis même, il y a notre collègue Jean Fournier qui vient de me glisser à l'oreille que dans son quartier Saint-Roch, il y a même un emplacement où t'as pas le droit de te stationner dans la rue parce que c'est réservé aux camions de rue, mais il n'y en a jamais vu. Il a jamais vu un train de camion, un food truck dans cette rue-là, jamais. Puis il y a un emplacement réservé, imagine-toi.
Il y a un emplacement réservé.
Ben, c'est ça qu'il me dit, en tout cas, dans le quartier Saint-Roch. Sinon, ils envoient au parc de Farfar lointain ou c'est pas trop où. Non, mais c'est loin. C'est tout le temps un parc dont t'as jamais entendu parler à Beauport. Puis tu sais, la question du compliqué, Paul Raphaël, que tu amènes très justement. Tu sais, avant même qu'il y ait des restaurants qui aient pignon sur rue dans la société humaine, il y avait probablement, tu sais, j'essaie de m'imaginer comment ça a commencé, le commerce de nourriture préparée, là. Ça devait être un petit paysan qui revenait de son champ, puis qui avait ses produits, puis c'est comme, c'est pris deux chaises, ben donc, une espèce de table en bois, il a mis ça, puis il a commencé à faire du troc. C'est comme l'étape avant de mettre un restaurant. Or, au Québec, il semble qu'on soit pas capable de faire la première étape. On n'est pas capable va n'importe où. Là. Puis là, je dis au Québec, faut pas exagérer. Mais tu sais, à Montréal, tu sais qu'ils ont annulé ça. Il y en a plus de food truck, il n'y a plus de apport dans les événements.
Ben, c'est un peu ça. Tu sais, le fameux projet pilote donnait l'impression que l'idée, c'était un peu de mettre tellement de réglementations, que ce soit tellement compliqué que. Parce qu'il faut quand même pas oublier que. Il y a des gens qui les opèrent, ces camions-là. Souvent, c'est des gens qui ont déjà des restaurants ou des services de traiteurs ou, et qui vont décliner leur offre en se procurant un camion. Ça prend des investissements. Ça coûte cher, là. Exact. Juste se procurer l'équipement, le camion, l'entretien.
La main-d'œuvre
qui est difficile à trouver par les temps qui courent. Donc, ça, c'est des investissements. Et ces gens-là, après, se retrouvent à avoir tellement de contraintes. Puis, à pas être capable d'opérer suffisamment pour être rentable. Donc, il n'y a plus personne. Il y avait 12 restaurateurs qui avaient participé au projet pilote. Il y en a 3 cette année qui ont fait leur demande pour avoir des permis.
Mais c'est sûr. C'est parce que c'est pas rentable. Puis, les endroits aussi qui sont pas intuitifs. Puis, pourtant, Baie-Saint-Paul, je sais pas si tu es allé faire un tour récemment dans ce coin-là. Baie-Saint-Paul, la première affaire que j'ai remarqué que je suis allé faire un tour l'année passée, c'est que quand tu arrives au centre-ville, tu as un espace qui est dévolu aux food trucks. T'as 2-3 food trucks. D'abord, ben, ça, c'est un autre point aussi, là. C'est pas de la cuisine moléculaire et expérimentale qu'ils font. Ils font des rotules puis des poutines. Hein? Ce que la plupart des gens qui pensent à un camion de rue pensent, à New York, là, les fameux hot dogs, tout ça, qui vendent, puis les falafels, les affaires de même, c'est pas la tanière, un food truck, là. C'est un étal à patates. Il faut que ce soit des cabanes à patates roulantes, essentiellement. Je te dis pas que c'est juste ça, faut gagner, mais on essaie de troller dans le fancy aussi. Puis bizarrement, là, tu vas peut-être être flabbergasté comme ben du monde de l'administration quand tu vas entendre ça, là. À la fois, il y avait une file devant le petit stand à patates, là, avec des roulettes dans le petit endroit, là. Puis il y avait aussi plus de place dans les restaurants gastronomiques à côté.
Ah oui?
Parce qu'imagine, toi donc, à Saint-Paul, ils ont compris ça. Quand tu veux manger dans un restaurant gastronomique, t'as pas le goût d'un roteux. Puis quand t'as le goût d'un roteux, t'as pas le goût d'aller manger dans un restaurant 5
services. C'est drôle. Hein?
Des génies.
c'est drôle, pareil.
Ouais.
Or, il y a quand même des restaurateurs qui sont optimistes, qui disent « Ah oui, bon, on n'a pas encore trouvé exactement la bonne recette, mais au moins le permis est passé de 750 à 100 $ Parce que ça coûtait quasiment 1 000 $ avoir un permis pour opérer un camion de cuisine
c'est
de
c'est
rue.
Fascinant. Fascinant, dirait Charles Tissère.
Fascinant. Le camion de cuisine de rue de la municipalité de Québec.
Un animal en voie d'extinction.
Il n'a pas vraiment de nid. Il ne sait jamais où nicher.
Pour le trouver, une application.
Alors, il reste évidemment des événements corporatifs là, sur lesquels se replient les restaurateurs. Ça marche. Tempête, hein? Si vous allez dans des événements privés organisés, il y a souvent des camions de cuisine
barbecue
de rue.
Fest, là, hey,
barbecue
passée,
Fest, moi, je suis allé faire un tour à la fois au Grand Marché pour au Barbecue Fest parce que c'était au même endroit, l'Exposité, puis Place Jean Béliveau, là. Puis c'était génial, là, c'était trippant. Puis là, ma blonde, elle voulait aller chercher des churros, puis là, elle voulait aller... C'était super le fun. Tu sais ça, je pense que c'est vraiment l'espèce de dernier bastion qui reste à ces gens-là qui voulaient opérer des camions de cuisine de rue, mais t'es un peu pessimiste.
Toi aussi, ta blonde va chercher des churros.
Ouais.
Je pense que c'est un problème qui est partagé. Ben, ouais, tout le temps, les blondes qui vont chercher des churros. Moi, c'est tout le temps la même maudite affaire. Ma blonde va chercher ça. En marque que c'est jamais le gars qui va chercher des churros. C'est tout le temps ta blonde qui va chercher des churros.
Parlant d'activité estivale, je veux revenir sur une histoire qui est dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, ce matin, qui est assez tragique. En fait, c'est une histoire qu'on suit depuis déjà presque 2 ans, parce qu'il y a un jeune homme, rappelez-vous, un jeune homme de 20 ans. En fait, c'est ça. Il y a un jeune homme de 20 ans qui a chaviré de son embarcation en Estrie lundi. Là, je mélange 2-3 histoires, là. Lundi, il y a un homme qui est donc chaviré de son embarcation, ouais. Portait pas de gilet de sauvetage. Et à la suite de cette histoire-là, on commence à se demander à quel point il faut forcer les gens à adopter certains comportements pour les protéger. C'est un peu ça la question. Parce que c'est un jeune homme de 20 ans, c'est la 9e victime de noyade en lien avec une embarcation, là, déjà cette année. Ça va vite, La saison fait juste commencer. Et évidemment, quand on demande aux gens de la société de sauvetage, puis aux gens des clubs nautiques et compagnie, puis de Nautisme Québec, est-ce qu'on devrait rendre la veste de flottaison obligatoire pour les gens qui partent sur une embarcation? Là, on parle des embarcations de type canot,
kayak,
chaloupe, ces trucs-là. Pas nécessairement le ponton, là, qui est honnêtement l'équivalent d'un patio sur l'eau, là, tu sais.
C'est une très belle invention, ça.
Le ponton?
Oui.
Mon embarcation favorite.
Moi. C'est merveilleux. Moi, la capacité de me sentir à la fois sur la terre ferme et sur l'eau, puis pouvoir boire en même temps, je trouve que c'est une très, très belle invention.
Et donc, quand ils ont questionné, par exemple, Renal Lawkins, qui est à la société de sauvetage, là, eh ben, il dit 8 personnes sur 10 décèdent parce qu'ils ne portent pas leur veste. Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit donc rendre obligatoire le port de la veste de sauvetage pour les gens qui vont en bateau? T'avoue que, pour moi, il n'y a pas de réponse simple. Là. Je sais que c'est facile de se dire, regarde, s'il est assez casse pour pas mettre sa veste de sauvetage, t'as un peu de la sélection naturelle.
Ouais.
Or, j'ai un peu un problème avec cet argument-là, dans le sens où c'est comme le casque de vélo, tu sais.
Mm-hmm.
Rendre le casque de vélo obligatoire, là, c'est de, t'sais, quelqu'un qui porte pas de casque puis qui va se promener ses boulevards en vélo, t'as envie de dire, regarde, là, tu cours après ton malheur, là. Mon problème, c'est que ça implique jamais juste la personne fautive. Ça implique jamais juste la personne qui prend la mauvaise décision ou la personne qui mesure pas le risque, tu sais. Dans un accident de vélo, par exemple, ben, il va y avoir un autre cycliste ou un piéton ou un automobiliste qui, lui, a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer sa sécurité. Puis il va probablement rester marqué par cet événement-là.
Puis au-delà de ça, il va se retrouver à l'hôpital, le cycliste qui s'est cogné la tête sur l'asphalte, puis c'est la société qui va payer au complet. Puis je le sais, là, les gens répondent toujours la même chose. Oh, on n'a pas besoin de se faire materner. On est assez grand pour prendre nos décisions. On devrait pas. Il y a déjà assez de règlements, puis ci, puis ça. Puis aux États-Unis, il y a des places qui n'ont pas le port du casque en moto obligatoire. Puis ça se passe bien, puis ainsi de suite. Sauf que moi je reviens toujours au choix de société. Parce qu'à la base, quand tu pars une société, tu pars avec des lois, des règlements, tu décides d'aller dans une direction ou une autre. Nous, on prend une direction qui est relativement sécuritaire. Le problème, c'est que les lois et les règlements, systématiquement, sont faits pour les gens qui manquent de jugement.
Ouais.
Et ce sont les gens qui manquent de jugement qui coûtent cher à la société. Tu sais, c'est comme, je vais te donner l'exemple de l'idéologie libertarienne, parce que des fois, je m'ostine avec du monde libertarien qui dit, ah, il devrait pas, le gouvernement devrait être juste là pour assurer la sécurité des gens. Tu sais, que personne rentre par infraction chez nous, puis que personne me tire dessus, puis ainsi de suite. Ça devrait être le rôle du gouvernement, that's it. Le reste, on paye, on s'arrange, tout le monde est libre. Ça marcherait dans une société où tout le monde a une tête sur les épaules puis est parfaitement raisonnable.
C'est
donc,
ça.
Tous des gens qui se lèvent le matin avec, d'abord, l'idée en tête de pas nuire à leur prochain, d'avoir leur avancement, mais en tenant compte des autres, de respecter la propriété des autres et d'avoir des comportements sécuritaires et qui sont corrects en société. Le problème, puis ça, on en a des exemples à tous les jours, c'est qu'il y a une minorité de gens qui coûtent très cher à la société. Et c'est pour ça qu'on a des prisons. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes d'indemnisation aux victimes. C'est pour ça qu'on a une DPJ. Et c'est pour ça qu'on force, parfois, certains comportements, dont le port de la veste de sauvetage, qui empêcherait 2-3 crapets de se noyer.
Ouais, puis tu sais, moi, je me mettais à la place des gens qui étaient peut-être dans la dite shallow. Parce que là, il y a des gens qui nous questionnent à savoir si c'est pas déjà obligatoire. C'est obligatoire d'avoir une veste par personne à bord de l'embarcation.
Oui.
Une veste qui est adaptée, d'ailleurs, aux mensurations de la personne. Fait que tu peux pas dire, ah oh, ouais, j'ai ma veste. Moi, je porte du 2X large, mais c'est une small, mais j'en ai une. Ça marche pas. Mais t'es pas obligé de la porter. Alors, pour l'instant, ça semble être ça, les règles.
C'est un peu illogique.
L'affaire, par exemple, c'est que, juste sur le plan du coût de la mesure, OK? Là, je te parle pas du principe de protéger qui ou quoi, là, mais juste sur le plan du coût, t'as fait à peu près à coup nul là, d'obliger les... Il faut déjà que les gens aient des vestes qui leur fait, mais ils sont pas obligés de la mettre. Alors, si t'obliges les gens à la porter, si on s'entend, c'est pas une mesure qui est dispendieuse. Là.
Ouais, mais c'est-tu... Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est sanctionné? Est-ce que présentement, il y a des agents qui se promènent sur l'eau pour vérifier si les gens ont des vestes de sauvetage? Il y aurait quand même un coût, tu sais, parce que si tu veux que ce soit obligatoire, va falloir que tu t'assures qu'il y a des gens qui soient là pour faire de la répression puis donner des amendes si c'est pas le cas. Sinon, personne ne va
la porter. Ils sont déjà là. Sur une pourvoirie, il y a déjà des gens qui surveillent dans les parcs, tu sais.
Moi, j'imagine que sont là. Fait que ça changerait peut-être pas grand-chose. Mais tu sais, souvent, ce qui est plate, c'est que dans ces situations-là, puis c'est un peu pour ça, pour le casse à vélo aussi, tu sais. C'est quoi l'excuse que la personne va te donner? Pourquoi qu'elle porte pas de veste de sauvetage la plupart du temps? C'est pas confortable. Je suis pas bien.
Hey, je pèse 280 livres, puis j'en mets une, puis je trouve le moyen que ça soit pas si inconfortable que ça, là. Moi, je suis le candidat parfait pour trouver ça inconfortable. Là.
Mais je te jure.
T'entends, là?
Je te jure que le monde pense plus à le confort immédiat qu'au risque de se noyer. Pis, c'est plate, mais c'est ça.
Guette bien, il y a quand même un débat intéressant. Michel, par texto 25226, nous dit: ne pas se faire materner, je veux bien, mais c'est pas à moi de payer pour un imbécile qui se force pas pour prendre des précautions et t'sais, pour ne pas coûter une fortune aux payeurs de taxes. Maintenant, moi, j'ai envie de demander à Michel, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Obliger les gens à porter une veste de sauvetage pour éviter qu'ils se noient? Ou payer pour le soutien peut-être psychologique que les gens vont avoir besoin parce qu'ils étaient dans le bateau, parce que c'était la famille du jeune homme qui s'est noyé, puis payé pour, après ça, l'hélicoptère qui a été envoyé pour rapatrier le corps du gars en ville. Ça coûte cher. Ça coûte bien plus cher quelqu'un qui se noie parce qu'il portait pas sa veste de sauvetage. À mon avis, là, selon mes calculs non scientifiques, là, ça coûte bien plus cher que de dire « on est obligé de porter la veste ». Maintenant, le principe d'obliger les gens à faire quelque chose d'aussi banal que porter... C'est vrai que ça donne l'impression que le gouvernement vient vérifier. Là, tu t'es-tu brossé les dents ce matin? Hein, t'sais, oublie pas de mettre ton manteau, il va peut-être pleuvoir cet après-midi. Ça, je suis d'accord avec ce principe-là qui m'agace moi aussi. Mais... le gros problème, c'est que c'est jamais juste cette personne-là qui est impliquée dans la situation. C'est jamais juste le niaiseux, tu sais.
Non. Puis si demain matin, tout le monde se réveille avec une tête sur les épaules, puis le jugement se met une veste de sauvetage, je vais être le premier à vous dire, les règlements, on tire ça par-dessus bord, puis on s'autogère. Mais pour le moment, l'être humain nous a jamais démontré, au Québec ou ailleurs, qu'il est capable de gérer par lui-même. Sinon, ben, on vit dans des belles sociétés anarchiques avec aucun règlement, puis aucune loi, puis aucun gouvernement. Mais c'est pas le cas. Ça marche pas.
Avant de passer à le prochain sujet, il y a deux, trois questions sur le cartel. Jean-Simon, je sais pas si tu peux nous informer là-dessus. Qu'est-ce qui reste jusqu'à quand? Là, j'entendais d'un corridor, dans les murmures de corridor de la station, hein, parce que c'est comme ça que ça marche dans n'importe quel bureau. T'entends des affaires qui te concernent pas.
Ouais.
Là, j'entendais que ça s'est vendu à une vitesse complètement folle. Est-ce qu'il reste déjà des produits à l'heure actuelle?
On vient d'envoyer un texto aux membres du cartel récemment pour indiquer que présentement, les stocks étaient épuisés, ce qui est absolument flabbergasting.
On avait estimé que ça prendrait une semaine à écouler. C'est des produits pour
des sacs à dos Lavoie. Ouais, c'est ça. Des sacs à dos Lavoie, étui à crayon Lavoie, boîte à lunch Lavoie, le tout que vous pouvez acheter. En fait, pour les trois, avec le rabais de 51$ qu'on donnait, ça vous équivalait à peu près à acheter un sac à dos à prix régulier à 88$ parce que c'était 91$ pour les trois. Alors, comme d'habitude, depuis le début du cartel, on est un peu jeté à terre par votre enthousiasme, votre vitesse à répondre. Merci d'abord parce que c'est grâce à vous si ça fonctionne. Ceci étant dit, là, présentement, les stocks sont épuisés. Sauf que vendredi, ils vont en recevoir d'autres. Et c'est jusqu'à samedi l'offre. Donc, les gens qui, malheureusement, se présentent à la boutique scolaire présentement, il n'y a rien. Mais si vous revenez vendredi ou samedi, il va en avoir. Mais encore une fois, je vous le dis, là, pis c'est la même chose. Il y a une semaine, quand je suis allé à la place Fleur-de-Lys pour les drones puis les autos téléguidées, j'ai passé en 3000 la file, tout mon homme. Hey, ça faisait le coin du centre d'achat complet. C'est merveilleux, c'est génial, merci beaucoup. Mais c'est sûr que ça vient avec le fait que dans toute chose, rien n'est infini. Et quand vous êtes là en très grand nombre, ben les commerçants doivent se réapprovisionner. Mais encore une fois, les premiers gagnants, c'est vous et ensuite les commerçants, bien sûr.
Et si vous êtes toujours pas membre du cartel, je sais pas, peut-être que vous vivez dans une grotte ou dans une caverne.
C'est
vous
rare,
étiez en voyage depuis 6 mois. Vous pouvez encore vous inscrire, je présume. Vous textez le mot cartel, C-A-R-T-E-L. Au 25226. Pas de point d'exclamation. Mettez pas votre nom, votre numéro de téléphone. C'est un système automatique qui fait que quand vous textez les lettres C-A-R-T-E-L, il vous envoie un lien. Ensuite, que vous pouvez cliquer, remplir un formulaire, vous inscrire, vous recevez la carte et vous recevez aussi les offres du cartel. Il y en a à peu près une par semaine. Des fois, il y en a deux. Des fois, il y a une semaine où il y en a pas. C'est toujours des rabais fantastiques sur des items en plus dont on a quand même besoin. Vois-tu, là, le matériel scolaire... Il doit y avoir quoi? Il y a une dizaine de milliers de membres certains du cartel?
Ah, plus que ça. 15 000. Oh, oui, puis ils s'en rajoutent à chaque fois. Puis,
vous comprenez que quand on dit il y a 500 packs-sacs pour les enfants, ça part vite.
C'est ça.
Ça part vite.
Mais là, tu vois, il y a des nouveaux membres en règle. Bienvenue au sein du cartel.
Dernière petite chose, là, je vais vous parler. C'est une nouvelle un peu insolite qui nous a été retrouvée par notre recherchiste François. C'est vraiment une drôle d'histoire. Puis en plus, le contexte est épouvantable. C'est le Forum économique mondial et les gouvernements du Canada et des Pays-Bas qui invitaient les médias aujourd'hui pour annoncer une nouvelle technologie qui permet aux gens, aux passagers, là, aux gens qui veulent voyager, donc, de prendre l'avion, de traverser les frontières internationales sans papier. Comment ça fonctionne?
Pas de passeport.
En fait, comment ça marche? C'est que ça va te prendre un passeport quand même, mais tu n'auras pas ton passeport papier. Là, c'est un projet pilote à l'heure actuelle qui va permettre de voyager entre le Canada et les Pays-Bas, exclusivement, juste le Canada et les Pays-Bas. Donc déjà, ça limite le nombre de gens, on s'entend, là. Moi, j'en connais pas beaucoup dans les 5 dernières années qui ont fait Québec-Amsterdam, mais bon. Mais sans avoir le passeport papier, parce que c'est une espèce d'application là qui permettrait d'avoir les informations de ton passeport dans ton téléphone intelligent, stocké de manière sécuritaire.
Bien sûr.
Bien sûr. Là, quand j'ai lu ça, voyageant de le Canada et les Pays-Bas sans passeport en utilisant les informations de passeport électroniques stockées de manière sécurisée dans leur téléphone. Je me suis dit, hey, il y a même pas une semaine, on apprenait que 3 millions de membres de Desjardins qui se sont fait frauder leur numéro d'assurance sociale par leur institution financière, qui est supposée être là, tu sais, l'institution avec le gouvernement auquel tu fais le plus confiance pour avoir des, tu sais, pour garder tes informations de manière sécurisée, là. Et là, eux autres, ils pensent qu'il y a vraiment des gens qui vont mettre leur passeport, les informations de passeport dans leur téléphone. Et hey, je t'annonce que moi, j'ai un petit peu, je me suis un peu moqué de ma mère il y a quelques années quand elle s'est créé son compte d'Apple. Elle s'est acheté son premier téléphone intelligent, là, puis ça prenait un compte avec une adresse courriel puis un numéro de carte de crédit si tu veux acheter des applications pis ces trucs-là. Puis là, ma mère disait, hey, jamais que je vais mettre mon numéro de carte de crédit sur Internet. Ça, c'est privé. Je ferai pas ça. Là, moi, en bon millénial, j'étais comme, bah, maman, come on, là. C'est niaiseux, là. Et là, ben, évidemment, elle se payait ma gueule quand Desjardins, l'histoire de Desjardins est sortie. Mais, au-delà de ça, je t'annonce qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien mieux avoir mon passeport papier dans le tiroir. Je le sais c'est quel tiroir. Puis, à la limite, si je me fais cambrioler, je suis sûr que c'est pas dans ce tiroir-là qu'ils vont regarder. Mmh. Ils vont prendre ma TV en premier.
Mais tu sais, c'est à la demande de qui, hein, qu'ils ont fait ça, cette mesure-là?
Non.
C'est les employés de la SQDC qui manquent de potes de marijuana qui vont s'approvisionner à Amsterdam, trouvent ça trop long aux douanes, fait qu'ils veulent que ça aille un peu plus vite.
25-226. Je suis curieux, là. Ouais. Peut-être que j'ai un peu orienté la discussion, mais je suis curieux. 25-226. Est-ce que vous embarqueriez ça, vous autres, dans un système où, plutôt que d'avoir votre passeport papier, les informations de votre passeport sont stockées dans votre téléphone intelligent, de manière sécurisée, nous dit-on? Comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça. Moi, jamais de la vie, je ferais ça. À moins d'être obligé, là. Puis là, qu'on me dise, là, le passeport, c'est fini. Tu sais, comme le livret de caisse, là. Là, à moins qu'on me dise, là, le passeport, là, c'est fini. On utilise, il n'y a plus personne qui, tu sais, les technologies à l'aéroport, là, te permettent plus d'avoir un passeport papier. Faut absolument que ce soit informatisé.
Ouais.
J'aurais pas le choix de me conformer. Sinon, oublie ça, là. Mettre mon passeport dans mon téléphone, c'est impossible que je fasse ça.
Tu vois, quelqu'un nous écrit déjà au 25-226. Jamais de la vie. Si la NASA se fait hacker, pas mal sûr que cette application aussi peut l'être. Tu sais, je pense que oui. Daniel également écrit « Jamais! » en caps là. Ça, c'est assez clair. Ça veut dire qu'elle crie jamais. Donc, c'est passé sous mon corps avant que je le fasse.
Grande qualité de acting quand même. Faut dire que le « jamais » est écrit en lettres majuscules.
C'est ça. Jamais!
Grande qualité d'acting.
Merci.
Puis là, je veux pas être alarmiste, mais je discutais avec des chums qui sont des programmeurs web, là, des informaticiens là, qui sont dans la programmation, ces trucs-là, puis ils me disaient des données, là, voler les données personnelles de gens, là, même dans une institution financière comme Desjardins, de l'interne, pas de l'externe. Là. Hacker les systèmes, les pare-feux, ces trucs-là, ça, c'est compliqué. Mais de l'interne, là, ça passe à travers les mains de personnes, puis regarde.
Mais il faut que ces employés-là aient accès aux informations, puis ça, c'est bien normal. Mais si tu veux mon avis, puis là, permets-moi d'être un peu futuriste, là, ce qui s'en vient, puis il y a déjà des ébauches de ça. Je pense que ça, c'est les balbutiements. Parce que oui, je pense que de notre vivant, Paul, on peut dire avec relativement de certitude que les passeports papier vont disparaître. Ça, je suis capable de dire ça, là, avec une bonne dose de probabilité positive que ça arrive. Ça m'étonnerait pas.
Ça
m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que les technologies sur lesquelles ils travaillent, c'est l'identification par l'œil.
Ouais, par les empreintes digitales. Biométriques.
Exactement, les identifications biométriques. La possibilité, éventuellement, puis ça, en fait, les technologies existeraient. Maintenant, l'implantant à grande échelle, c'est d'autres choses. Payer avec une puce qui est introduite dans notre doigt.
Ouais, ouais, c'est ça.
Fait que quand ton corps devient tes pièces d'identité, ça devient beaucoup plus difficile de prendre l'identité de quelqu'un, tu comprends? Mais en attendant, c'est l'intermédiaire qui est dangereux, c'est le téléphone intelligent.
Exact. Puis encore faut-il que ces technologies-là soient suffisamment à point, parce que, vois-tu, notre collègue Jeff Blanchette, qui est en vacances cette semaine, il y a l'espèce d'iPhone là, qui reconnaît ton visage. Là. Fait que là, t'as plus de bouton là, sur ton iPhone. Moi, je suis vieillot, je garde tout le temps mes téléphones le plus longtemps possible. Là. Mais lui, donc, c'est ça, il a son visage, là, il met juste son téléphone devant son visage, puis le téléphone reconnaît,
ouais.
Ça, c'est le visage de mon maître absolu, Jeff Blanchette, et ben il débarque, puis là, t'as accès aux applications. Et Jeff faisait le Movember, là. Donc,
ouais.
Jeff, il a de la barbe puis une moustache. Puis là, ben, il s'était rasé la barbe, rasé la moustache pour commencer le Movember. Son téléphone ne le reconnaissait plus. Il était plus capable de rentrer dans... Il était plus capable d'avoir accès à son téléphone.
Mais ça démontre que c'est sécuritaire. Ça démontre que c'est sécuritaire. Puis que si on réussit à utiliser la biométrie de façon intelligente, on va parvenir à quelque chose d'intéressant puis de plus sécuritaire que le téléphone intelligent.
Deuxième preuve que les systèmes biométriques sont peut-être pas encore à point, Benjamin.
J'ai la même chose. Et plus de lunettes, mon téléphone ne me reconnaît plus.
C'est très drôle.
Tellement bon.
C'est vraiment bon. C'est sûr qu'on a des bugs innocents.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ultimement, t'as raison de dire que c'est le numéro d'assurance sociale qui a été fraudé là, chez Desjardins. Tu sais, un numéro de 9 chiffres, unique, là, on s'entend, c'est extrêmement facile à dérober. Tandis que, tu sais, la signature biométrique, elle est réellement unique. Là,
mais il y a une série sur Netflix, si ça vous intéresse d'explorer ça, là, qui s'appelle Altered Carbon, carbone altéré. Là.
Ouais.
Là, on est rendu vraiment dans le futur, mais si éventuellement on s'identifie seulement avec nous pour voler l'identité, il va falloir voler le corps à quelqu'un. Fait que dans cette série-là, c'est exactement ça. Tu peux switcher de corps à volonté puis mettre ta conscience à quelque part. Mais là, on est peut-être au-delà de notre vie, malheureusement.
En tout temps, vous pouvez participer à cette émission comme vous le faites déjà d'ailleurs en nous envoyant des textos 25226, des courriels au studio à commercial FM 93.com. Vous nous appelez, Benjamin va vous répondre s'il reste encore un petit peu de voix. 88 670 9330. On revient après la pause.